comme les brillants entrepreneurs, épargnez chez Suno Assurance pour garantir le financement de vos projets. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Les Français dorment de moins en moins. En 50 ans, la durée des nuits a été amputée d'une heure, parfois d'une heure et demie. C'est une étude très sérieuse. Le dernier baromètre sanitaire de l'agence Santé publique France consacré à ce sommeil des Français qui a révélé cette diminution du temps consacré au repos avec un seuil symbolique de franchi, celui des 7 heures de sommeil précisément. On ne passe plus en moyenne que 6h42 à dormir dans son lit et ce n'est pas suffisant. Alors dans cette émission que nous consacrons au sommeil, nous allons voir précisément quelles sont les causes qui expliquent cette tendance. Bien sûr, nous reviendrons sur l'impact du manque de sommeil pour la santé, pour la croissance, pour l'attention. Quels sont également les troubles qui affectent la qualité du sommeil et la qualité de vie en général, car toutes les heures passées dans son lit ne sont pas forcément reposantes, car le sommeil peut être agité, confus et même troublé par des pathologies bien spécifiques. Si vous avez des questions sur le sommeil, témoignages à apporter, eh bien appelez-nous 33 84 22 75 75 ou laissez-nous un message sur notre page Facebook. Journée internationale du sommeil, cette publication du bulletin épidémiologique de Santé publique France, photographie de l'état du sommeil des Français que l'on va avoir l'occasion de commenter, notamment avec vous, professeur Isabelle Arnulf, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef de service du département des pathologies du sommeil à la Pitié-Salpêtrière à Paris. Vous venez de publier Une fenêtre sur les rêves, neuropathologie et pathologie du sommeil aux éditions Odile Jacob. On retrouve également avec nous en studio Jean-Marc Loison, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président de l'association France Insomnie. Et tout à l'heure, nous serons en ligne avec le Cameroun, où nous allons retrouver le docteur Benjamin Tchaleux, neurologue à l'hôpital général de Douala. En fin d'émission, nous faisons le point sur la rupture du stock des traitements antirétroviraux, donc contre le VIH au Gabon. Nous en parlons avec Françoise Ndaïchimier, directrice de l'ONU SIDA Gabon.
Priorité santé sur RFI.
Professeur Isabelle Arnulf, en lisant votre livre « Une fenêtre sur les rêves », on apprend des choses assez étonnantes. Des recherches, des études, mais aussi des anecdotes, parfois surprenantes, sur les troubles du sommeil. On va y revenir dans quelques minutes. L'étude de ces pathologies donne des éclairages très intéressants sur la qualité, sur cette nature du sommeil. Comment on dort? Quelles sont les différentes phases qu'il compose? Toutes ces questions qui sont absolument essentielles. Mais d'abord, on va revenir sur cette fameuse diminution du repos nocturne, moyenne de 7 heures de sommeil par nuit. Bien sûr, c'est compliqué de dire moyenne générale, on parle d'une photo. Si on dit maintenant de combien d'heures de sommeil doit-on bénéficier en une nuit, en quelque sorte, comme pour un repas, pour les calories, pour être rassasié, professeur Arnulf?
Alors, les personnes le savent de façon individuelle quand elles sont libres de leurs heures et que, par exemple, elles sont en vacances au bout d'une semaine et qu'elles se sentent bien dans la journée. Là, elles ont une bonne idée de la quantité de sommeil qu'il leur faut. Alors, dans ces baromètres, on demande souvent quel temps vous dormez en semaine et puis quel temps vous dormez quand vous êtes libre et combien d'heures de sommeil il vous faudrait pour être bien. Et c'est ce delta, cette différence qui inquiète actuellement avec, vous avez dit une heure et demie, mais on vient de perdre une demi-heure en cette année, de 2010 à 2017.
Il y a une accélération.
Il y a une franche accélération de la perte de sommeil dans la population, population jeune et adulte jeune aussi.
Vous associez ça quoi? À la technologie?
À deux choses. Le travail de nuit a augmenté. Il y a maintenant 4,3 millions de travailleurs de nuit au lieu de 3,3 millions. Et le travailleur de nuit est en privation de sommeil, quoi qu'on dise. On n'est jamais adapté, l'être humain, à vraiment faire travailler la nuit. Et puis, les écrans sont arrivés de façon massive dans les chambres et chez les jeunes. Et ils sont excitants, ils produisent des lumières bleues, c'est toujours plus intéressant d'être sur Facebook que de dormir pour un jeune. Et du coup, on prive les jeunes de sommeil. Et puis, il y a aussi les levées très précoces pour aller travailler ou aller à l'école. Hein.
Surtout quand il y a des heures de transport derrière.
Ah oui, 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 et ça c'est vrai à Paris, mais c'est vrai aussi au Cap-Vert où les enfants ont marché 2 heures pour aller à l'école. Et vous avez à ce moment-là des enfants qui sont en dette de sommeil chronique. Et ces jeunes cerveaux, ils ont vraiment besoin de dormir, pour plein de raisons.
C'est important de dire, il y a des conséquences très concrètes pour la santé. Bien sûr, on est fatigué, bien sûr, on bâille, professeur Isabelle Arnulf, mais aussi le corps en pâtit.
Le corps en pâtit, d'abord le cerveau qui est la premier organe qui a besoin de dormir. Pendant la nuit n'est pas du tout un temps comme un muscle qui arrêterait de travailler. Le cerveau travaille, mais il travaille différemment. Et en particulier, il mémorise les choses, il consolide la mémoire, il régule nos émotions, il nous permet de la créativité, il nous permet de simuler un certain nombre de menaces pendant les rêves qui sont un petit peu inquiétants. Donc il est en train de nous préparer pour la journée qui suit. Et ça, c'est pour le cerveau. Et dès que vous manquez de sommeil, bah, vous avez des gens irritables, des gens qui peuvent s'endormir à tout bout de champ, qui régulent moins leurs émotions, qui consolident moins leur mémoire. Alors sur des cerveaux en apprentissage, c'est une catastrophe.
On comprend donc pour les enfants que ce soit absolument essentiel.
Mais pas seulement, en fait, le cerveau, le reste du corps. En fait, qu'est-ce qui se passe pendant le sommeil? C'est un petit peu comme si on refaisait notre maison. On consolide nos os, on grandit, hein, c'est là que les enfants grandissent. On favorise le métabolisme, c'est-à-dire que si on dort pas bien, on va avoir d'une part un risque de diabète plus élevé, d'autre part une obésité, c'est-à-dire que le métabolisme des lipides et des graisses se fait en grande partie pendant le sommeil. Et depuis qu'on a cette privation de sommeil dans la population en épidémiologie, on voit apparaître ces parallèles à l'épidémie d'obésité. Pas seulement, évidemment, quelqu'un qui est sur ses écrans va plus attraper un paquet de chips et faire moins d'activité. Donc il n'y a pas que le manque de sommeil, mais c'est le fait d'être trop sur les écrans.
Diminution donc de ce temps consacré au sommeil. Je me retourne vers vous, Jean-Marc Loison, votre association France Insomnie. Comment vous définissez-vous justement cette insomnie? Vous dites, vous êtes insomniaque toujours au présent ou vous êtes un ancien insomniaque?
Bon, je suis toujours insomniaque, je le suis depuis mon enfance. Au fil des années, je me suis accommodé un petit peu de l'inconfort de mes nuits. Et puis, il y a quelques années, j'ai eu un événement professionnel qui a complètement bouleversé ma carrière. Et je dirais que mes insomnies sont transformées plutôt en nuit blanche. C'est à ce moment-là que j'ai consulté et que j'ai fait connaissance du réseau Morphée. Et au cours de ces ateliers, j'ai constaté vraiment les témoignages des insomniaques, des témoignages parfois fort poignants, avec de réelles souffrances. Et donc nous étions un petit groupe d'insomniaques et nous avons compris qu'il était important de créer quelque chose, surtout qu'il n'existait pas d'organisme ou d'association. Et donc il faut savoir que l'insomnie, elle est définie de manière très précise au niveau international. Il s'agit des difficultés d'endormissement, de se réveiller la nuit, de ne pas se rendormir, de se lever trop tôt, de se réveiller trop tôt, ou également de se réveiller en n'ayant pas l'impression d'avoir fait une bonne nuit, d'être fatigué. Donc avec des conséquences, comme le professeur le soulignait. Et donc, il y a un chiffre qui est quand même très important, c'est que les conséquences de ces insomnies, au niveau de la collectivité, puisque l'absentéisme, les accidents, aussi bien d'origine domestique que les accidents du travail et les maladies qui en découlent, eh bien ça génère un coût pour la collectivité de plus de 2 milliards d'euros par an. Donc c'est dire si la qualité de notre sommeil est quelque chose de très important.
Jean-Marc Loison, on a fait appel à vous parce que vous êtes justement dans ce domaine associatif, mais j'ai aussi des questions à vous poser, par exemple sur votre expérience personnelle. Vous le dites, je suis insomniaque depuis des années, des dizaines d'années. Ça veut dire que quand vous allez vous coucher, c'est un moment chaque jour que vous appréhendez ou finalement vous vous êtes habitué?
Plus maintenant, je dirais que j'ai culpabilisé pendant de nombreuses années avec, quand on vous dit que les heures avant minuit compte double, je crois. Je dirais que quand j'étais enfant, je n'en avais pas vraiment conscience et je considérais ça plutôt comme presque un avantage. Et je dirais que c'est pas les histoires qu'on pouvait me raconter le soir pour m'endormir. Au contraire, moi, après les histoires, je me les créais dans ma... Et puis, à l'adolescence, je dirais que ça a été un peu plus marqué. Mais après, bon, je dirais que vous pouvez faire la fête, vous n'êtes pas trop fatigué.
Mais vous avez ressenti un impact sur votre santé, sur certaines compétences,
oui,
sur certains développements?
Alors, une des conséquences les plus importantes, c'est qu'on a diagnostiqué un retard de croissance et que on m'a prescrit des hormones de croissance pendant quelques années, qui n'ont pas eu vraiment beaucoup d'effet. Après, j'ai eu des somnifères qui ont fonctionné pendant quelques temps, mais je crois qu'au bout d'un certain temps, on s'habitue. Et pendant toute ma jeunesse, tant bien que mal, je me suis accommodé de...
Et aujourd'hui, vous êtes défait de ce traitement médicamenteux ?
Oui. C'est-à-dire que j'ai essayé tout ce qui peut être des thérapies alternatives, mais j'utilise encore de temps en temps les somnifères, alors à ma manière, je ne devrais pas le dire devant. C'est-à-dire que pour réguler, pour reprendre un certain rythme, pendant 3 ou 4 jours, je vais reprendre un somnifère qui va me recaler. Et puis, j'arrive à m'en passer au bout de 4 ou 5 jours.
Alors, professeur Isabelle Arnulf, il y a plusieurs façons de mal dormir. Hein. Il y a l'insomnie, mais il y a aussi des maladies, des troubles, des pathologies que vous étudiez précisément. Comment, justement, on étudie ces différentes maladies du sommeil ? On observe, d'abord il y a la consultation, que vous disent les gens quand ils viennent expliquer de quoi sont faites leurs nuits ou surtout leur absence de sommeil?
En pratique, les personnes qui consultent soit comme monsieur pour des difficultés de s'endormir ou de maintenir le sommeil pendant la nuit, ça c'est le registre, on va dire, de l'insomnie. Et là, on va chercher sur le plan neurologique, est-ce qu'il n'y a pas des jambes sans repos, le besoin des impatiences dans les jambes, quelque chose qui empêche l'accomplissement de l'endormissement. Et ça, la personne va nous le dire cliniquement, on n'a pas besoin de l'enregistrer ensuite. Il y a les personnes qui sont décalées au niveau de leurs horaires, de leur horloge interne et qui vont avoir du mal à dormir avant 2-3 heures du matin, mais dormir très bien ensuite. Et ça, c'est un problème d'horloge. Et puis, le restant va correspondre à l'insomnie proprement dite dont parlait Monsieur Loison, cette difficulté à dormir suffisamment en étant mal dans la journée. C'est différent des court-dormeurs qui sont bien dans la journée quand ils dorment peu, et c'est différent de la pénurie de sommeil dont on est en train de parler actuellement, qui sont des gens qui devraient dormir et qui ne vont pas se coucher. Hein, monsieur va se coucher et il n'arrive pas à dormir. Hein. Attention, c'est pas les mêmes conséquences sur la santé. Donc ça, c'est un grand motif hein, de consultation. Les autres motifs sont, je suis somnolent dans la journée, je m'endors à tout bout de champ alors que j'ai l'impression de pas trop mal dormir. Et là, on va trouver une majorité de gens qui souffrent d'apnée du sommeil, et là il faut enregistrer puisque la personne n'est pas consciente des apnées qu'elle fait, et puis une minorité de personnes qui ont des troubles des circuits d'éveil, narcolepsie, hypersomnie, et là il faut enregistrer. Et puis la troisième catégorie, c'est j'ai un sommeil agité, et je crie la nuit, je me débat, j'ai des cauchemars, et là généralement il faut prendre les gens dans le laboratoire de sommeil puisque ce qu'ils font, ils n'en ont pas très conscience, et puis il faut voir dans quelle phase de sommeil ça se passe, parce que les traitements sont très différents.
Et quand on ne connaît pas, on peut découvrir des maladies absolument incroyables, spectaculaires, ça peut prêter à rire, mais quand on y regarde de plus près, c'est pas du tout drôle, parce que ça peut vraiment gâcher la vie des gens et les mettre en danger. Vous pouvez nous donner quelques exemples ?
Oh, c'est pas drôle. Même le somnambulisme, qui fait quand même sourire beaucoup les gens, parce que quelquefois, c'est des enfants qui se baladent un petit peu, peut donner. Il y a quand même des gens qui passent par la fenêtre. Il y a des comportements sexuels non conscients, avec des viols nocturnes. Il faut pas que ces personnes-là dorment avec les enfants. Il y a des personnes qui vont manger et qui, étant confuses, somnambules, vont manger n'importe quoi et se casser les dents sur un steak congelé, par exemple. Il y a les personnes qui crient et se débattent dans la phase de sommeil paradoxal en fin de nuit, qui sont des gens plus âgés, qui ont des cauchemars agités. Et ça, malheureusement, c'est très annonciateur de la maladie de Parkinson.
Et justement, il y a ces liens très intéressants entre certaines pathologies neurologiques évolutives et des signes qui se manifestent durant la nuit.
Oui, et par exemple, les cauchemars agités à plus de 50 ans, quand il n'y en avait pas avant, ces personnes qui insultent, qui tombent du lit, qui donnent des coups de poing, eh bien on sait depuis quelques années que la moitié d'entre eux, dans les 7 ans, vont développer une maladie de Parkinson ou une autre maladie neurodégénérative. Donc maintenant, on les surveille comme du lait sur le feu, on est en train de mettre en place des systèmes pour essayer de les protéger. Donc ça existait probablement avant, mais on le savait pas. Donc là, on va avoir une fenêtre pour essayer de protéger les personnes contre l'arrivée de certaines maladies neurodégénératives.
Donc il y a le diagnostic, il y a l'observation, et après il y a une prise en charge. Comment ça se passe avec des thérapeutiques médicamenteuses et comportementales ?
Absolument, c'est de la médecine, hein, donc ça passe évidemment beaucoup par la parole, hein, ce que les personnes disent, par rapport à d'autres médecines, ces fameux examens complémentaires où on prend les gens une ou deux nuits avec une vidéo la nuit, des capteurs dans un labo, parce qu'il faut beaucoup qu'on observe. On peut faire des choses à la maison, mais on va perdre une partie des informations. Et puis ensuite, on met en place des traitements. Alors évidemment, tout ce qui est respiratoire, les traitements sont plutôt mécaniques. On met en place des pressions positives par un masque ou des petites orthèses dans la bouche, ou d'une manière générale, maigrir, dormir sur le côté, qui aide beaucoup à diminuer le ronflement et les apnées. D'un autre côté, dans des pathologies plus neurologiques, on doit donner des traitements qui sont parfois légers, comme de la mélatonine, et parfois qui sont des traitements de neurologie. Dans les jambes sans repos, on va s'occuper de vérifier que la personne ne manque pas de fer. Vous savez, ça touche beaucoup les femmes enceintes, et c'est beaucoup lié à la façon dont on absorbe le fer, et on le transforme en dopamine dans son cerveau. Et donc là, on va s'assurer que la personne a des stocks de fer suffisants en lui amenant éventuellement des comprimés ou des perfusions, et puis donner des médicaments. Et dans l'insomnie, il y a moitié de thérapies qui sont cognitives, comportementales, de relaxation, de méditation, de biofeedback, ou une partie de patients qui a quand même besoin de médicaments. Alors, des somnifères dans certains cas, des antidépresseurs à petite dose dans d'autres.
Alors, on va tout de suite prendre nos auditeurs en ligne. On donne la parole aux auditeurs de Priorité Santé.
Priorité Santé sur RFI.
Et la première de ces auditrices, c'est Ingrid qui est en ligne de Douala au Cameroun. Bonjour Ingrid.
Bonjour.
On vous écoute, le professeur Isabelle Arnulf vous écoute.
Alors, je suis âgée de 23 ans et depuis près de 3 ans, je souffre, n'est-ce pas, d'un trop plein de sommeil. Je dors beaucoup et j'ai l'impression qu'il s'agit d'une hypersomnie. Tenez par exemple dans mes activités quotidiennes. Lorsque je l'ai fini et qu'il arrive que je vais dormir autour de 21h30, je ne me réveille qu'à partir de 7h, hélas, sous pression parentale. Donc, si les parents ne sont pas là pour me réveiller, je vais me réveiller autour de 8h, 9h. Et quand bien même je mets le réveil, je n'entends pas. Donc, je ne me réveille que lorsque les parents me réveillent. Et je suis tout le temps fatiguée, je me sens fatiguée. Quand je ne vais pas à l'école en journée et que je reste à la maison, j'ai juste envie de dormir, même quand je suis en train d'étudier. Je me sens fatiguée. Ce n'est pas qu'une fatigue physique, c'est aussi une fatigue cérébrale. Et donc, j'ai juste envie de dormir lorsque je fournis un petit effort.
Et Ingrid, ça s'est déclaré uniquement quand vous avez commencé vos études supérieures, il y a quelques années?
Oui, il y a quelques années, j'étais déjà à l'université.
Vous étiez déjà à l'université. Professeur Arnulf.
Alors Ingrid, bonjour, vous décrivez un excès de sommeil. Hein. Vous dormez, quand on vous laisse libre, 15 heures à peu près, hein, par 24 heures. Et pour autant, vous n'êtes pas reposée. Vous continuez à être somnolente dans la journée. Alors, immédiatement, évidemment, moi comme neurologue, ça m'évoque ce qu'on appelle l'hypersomnie idiopathique, qui arrive effectivement dans votre âge, et qui est probablement un déficit dans un circuit de réveil. C'est-à-dire les personnes n'arrivent plus à se réveiller le matin. Il faut 10, 20 sonneries de réveil, il faut aller les secouer, et quand elles font une sieste, c'est pas 10 minutes, c'est 3 heures et elles sont pas plus reposées. Maintenant, avant d'évoquer cette hypothèse qui est quand même une maladie rare et dont on fait le diagnostic justement dans des laboratoires de sommeil avec plus de 48 heures d'enregistrement, il faut évidemment éliminer les autres causes qui sont la dépression, la fibromyalgie, un sommeil qui serait pas assez réparateur parce qu'il serait avec un fort ronflement, si vous avez pris du poids, des apnées, vous voyez ce genre de choses. Mais assez vite, à votre âge, et vous devez pas être quelqu'un de très costaud, on pense à ces maladies neurologiques, narcolepsie, hypersomnie, en fait, hein, c'est les deux.
Et est-ce que vous avez des douleurs, Ingrid? Et autre question, est-ce que vous êtes en surpoids?
Non, je ne suis pas en surpoids, je n'ai pas de douleurs. Et lorsque je me suis renseignée auprès de quelques infirmières, elles m'ont fait comprendre que c'était un phénomène tout à fait normal et que je faisais mon âge, il fallait que je me repose. Mais là, je ne peux vivre les conséquences que sur mes performances, sur mon rendement. Il n'est pas vraiment ce que je souhaite.
Et justement, professeur Isabelle Arnulf, quand on est face à quelqu'un qui fait de l'hypersomnie, c'est quoi les pistes? C'est quoi ce qu'on peut lui conseiller?
En traitement, actuellement, bon, il faut prouver, hein, bien sûr que c'est du sommeil, que c'est du sommeil qui est normal, mais en quantité excessive. Et donc, on traite avec des stimulants de l'éveil. On a le modafinil, le xyrem, la ritaline, qui aident, parce que ce sont des personnes qui, par ailleurs, sont très intelligentes. Hein, c'est pas le problème. C'est vraiment qu'elles rament toute la journée.
Il faut bien distinguer ça d'une pseudo-paresse ou d'une pseudo-fainéantie, ça n'a strictement rien à voir.
Strictement rien à voir, et Dieu sait qu'est-ce qu'ils entendent par les autres. Hein. Il suffit de se secouer, de se lever le matin. C'est une maladie.
Donc, pris en charge par un médecin. Oui. Donc, Ingrid, ce qu'on peut vous dire, c'est d'aller consulter et que ce médecin puisse justement voir avec vous qu'est-ce qui peut vous aider pour dormir un petit peu moins longtemps, mais surtout se réveiller en meilleure forme. On vous souhaite une excellente journée à Douala, Ingrid. Et on va partir pour le Sénégal, pour Dakar, où on retrouve Seydou Diatta. Bonjour, Seydou Diatta.
Bonjour.
On vous écoute.
Bonjour à vos invités, à tous les auditeurs de RFI.
On est à votre écoute.
Moi, j'ai un problème de sommeil que quand je dors ou quand je fais les siestes de 14h à 15h, il m'arrive de me réveiller, de me sentir réveillé et pourtant je n'arrive pas à bouger. Je suis cloué au lit et je n'arrive pas à bouger. C'est comme si j'étais paralysé et pourtant je sais que je suis réveillé. Et j'aimerais savoir ce que c'est et pourquoi ça m'arrive.
Professeur Isabelle Arnulf, c'est un nom ce que nous décrit Seydou Diatta?
Oui, monsieur Diatta, vous décrivez parfaitement une paralysie du sommeil. Il arrive qu'en sortant du sommeil, et parfois en entrant dedans, on se réveille sans que les muscles se réveillent. Autrement dit, votre cerveau est éveillé, mais votre corps est encore profondément endormi et paralysé par le circuit qui nous paralyse normalement dans la phase de sommeil paradoxal. Alors c'est extrêmement impressionnant, ça peut durer une à plusieurs minutes, ça peut parfois s'accompagner d'hallucinations. Je ne sais pas si vous en avez l'impression d'un intrus dans la pièce ou qu'on vous touche ou que vous flottez légèrement au-dessus de votre corps réel.
Vous voyez des images, des choses bizarres ou c'est juste ce blocage de votre corps?
Non, je sens que je vois les personnes qui sont autour de moi. J'entends aussi le débat, ce qu'ils disent. Et puis j'ai l'impression de les appeler. Et à mon réveil, si je leur dis que je vous ai appelé, ils me disent non, on ne vous a pas entendu.
Alors, c'est pas grave, ça arrive plus quand on est privé de sommeil et quand on est sur le dos, exactement ce que vous décrivez. Et une fois qu'on est comme ça, paralysé sur le dos, si vous arrivez à parler est difficile, mais à prononcer des marmonnements ou des gargarismes, il faut que la personne autour de vous vous pince. Ça vous aidera à sortir de cette phase de paralysie. Sinon, si vous n'arrivez pas à communiquer avec les autres par des brefs mouvements ou des marmonnements, il faut pas essayer de lutter contre la paralysie. Plus on lutte, plus on la sent et plus c'est angoissant. Et donc, il vaut mieux essayer de se dire mentalement, c'est ma paralysie. Je suis par exemple allongé sur une plage au calme et je vais détendre mes muscles au lieu d'essayer de les bouger. Et ça va vous aider à passer ce cap, parce que l'information que va vous rendre votre corps, c'est effectivement, on est détendu pour le coup. Et ça va vous aider soit à vous rendormir et pouvoir vous réveiller à nouveau normalement, soit au bout de quelques minutes à vous réveiller, mais dans un état d'angoisse moins fort.
Ce qu'il faut gérer, c'est cette panique et essayer de... En fait, en comprenant peut-être qu'aussi, on peut mieux maîtriser cette angoisse.
Absolument. Et puis, maîtriser aussi le fait que en fait, on respire, même si on a l'impression d'une pression sur la poitrine, parce que les muscles de la cage thoracique sont paralysés, mais le diaphragme fonctionne. Donc il faut un petit peu se raisonner en se disant « c'est pas grave, ça va passer ». Mais dans toutes les populations et toutes les cultures, on voit les paralysies du sommeil qui sont interprétées parfois, sur le plan culturel, comme des possessions, un diable assis sur la poitrine, un incubus. Enfin, on le trouve vraiment, c'est très très réparti dans la population. Et puis ça peut courir dans des familles. Hein. Il y a des familles qui sont sujettes aux paralysies du sommeil récurrentes.
Donc c'est se rassurer, dire « ça va passer, on se détend ». Seydou Diatta, j'imagine, j'ai jamais été dans ce cas-là, donc je ne sais pas si on peut respirer profondément, je ne sais pas comment ça se passe, mais en tout cas, essayer de se relaxer un maximum.
D'accord, mais c'est lourd, ce n'est pas facile, parce que ces derniers 6 mois, ça s'est accentué.
Et vous avez un rythme de travail compliqué, nuit et jour?
Oui, je fais 3 nuits et 2 jours.
Donc il y a aussi du sommeil à rattraper, une extrême fatigue.
Ah, d'accord.
C'est ce que vous nous avez dit tout à l'heure, c'est aussi quand il y a une perturbation des rythmes, etc.
Le manque de sommeil favorise les paralysies du sommeil, hein, clairement.
Et c'est peut-être que si vous prenez quelques vacances, les choses diminueront peut-être un petit peu, mais en même temps, c'est pas facile pour tout le monde toujours de prendre des vacances. En tout cas, on vous souhaite une excellente journée à Dakar, Seydou Diatta, et on va partir pour le Cameroun, pour Yaoundé. On retrouve Augustine. Bonjour Augustine.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
Alors, moi, j'ai un problème de manque de sommeil. Je dors à peine 2 à 3 heures par nuit. Et j'ai constaté que j'étais opérée d'un cancer du sein. Et après tout ce traitement lourd, on m'a prescrit un truc pour me relaxer les muscles qui s'appelle Atarax. Et chaque fois que je le prenais, je m'endormais, je ne me sentais pas réveillée. C'est comme si j'étais morte, je ne me souvenais ni de rien du tout avant le sommeil. Je suis retournée voir mon oncologue qui m'a dit « il faut arrêter de le prendre progressivement ». Et depuis que je l'ai arrêté, ça va faire environ 2 ans, je ne dors plus. Je ne dors plus du tout, du tout, du tout, du tout. Je reste éveillée la journée, je travaille jusqu'à 1h du matin. Quand je me couche, aussitôt couchée, aussitôt réveillée. Et le matin, je suis très irritable. J'aimerais avoir des conseils. Comment me débrouiller, comment m'en sortir dans ce cycle. Je voudrais dormir naturellement sans plus avoir à avaler quoi que ce soit.
Professeur Isabelle Arnulf-Augustine, qui a justement ces troubles du sommeil depuis longtemps, peut-être vous avez, je me tourne vers vous, Jean-Marc Loison, vous reconnaissez des choses dans votre parcours d'insomniaque?
Là, c'est un cas quand même bien, bien spécifique, mais souvent quand on est insomniaque depuis de nombreuses années, souvent les conseils les plus élémentaires d'une hygiène de vie sont un petit peu oubliés. Donc parfois, on oublie que se lever, enfin avoir des horaires réguliers pour le coucher, mais surtout
pour le lever.
Ne pas dormir, même si on manque de sommeil, ce n'est pas de dormir plus le week-end. Également, ce qu'il y a des choses qui sont très importantes, c'est d'avoir par exemple une activité physique le matin, ne pas pratiquer par exemple de sport le soir, puisque le corps a besoin d'un abaissement de la température.
Mais malgré tout, d'avoir une activité physique, en tout cas la sédentarité, c'est pas bon pour le sommeil.
Tout à fait.
Enfin, la sédentarité, c'est mauvais pour le sommeil.
Tout à fait.
Donc il faut bouger. Est-ce que vous avez une activité physique, Augustine? Parce que on a compris que vous avez parlé de votre oncologue, vous avez lutté contre un cancer du sein. Est-ce que vous avez malgré tout continué à pas forcément faire du sport, mais au moins marcher régulièrement?
Oui, je marche parce que avec la cicatrice, on m'a conseillé de faire des exercices des bras, de tout le corps pour ne pas rester paralysée ou bien. Mais aussi cette sensation-là, ils ont appelé ça le syndrome du membre manquant. Quand je fais les exercices, je ne sens pas ce côté du côté opéré.
Donc, de toute façon, vous faites le lien entre la détérioration de la qualité de votre sommeil et la maladie que vous avez eue, Augustine.
Moi, j'ai tout simplement constaté que c'est après cette opération que j'ai perdu complètement le sommeil.
Professeur Isabelle Arnulf.
Alors, Augustine, vous disiez que vous ne dormiez pas très bien avant l'opération. L'opération me semble avoir été un choc. Hein. Et vous dites bien que vous en avez rêvé, vous en rêvez encore. Hein. Et c'est vrai que quand on apprend qu'on a un cancer, c'est souvent associé dans la tête au fait « je vais peut-être mourir ». Et ça, c'est un moment difficile à passer. Et peut-être que votre cerveau continue à travailler cette idée, même si vous vous en êtes sorti, il a pris l'habitude de se mettre comme ça en questionnement. Il me semble que ce serait quand même utile que vous parliez régulièrement, au moins une dizaine de fois, avec un psychologue ou un psychiatre pour arriver à digérer cette opération qui a l'air d'envahir vos nuits et de vous rendre un petit peu hyper vigile. La deuxième chose que je pourrais vous dire, c'est que j'enregistre beaucoup de gens qui disent ne pas dormir ou ne dormir que 2 heures. Et généralement, il y a au moins 5 heures de sommeil. C'est-à-dire qu'on ne perçoit pas toujours notre quantité de sommeil la nuit. Et peut-être parce que le cerveau est encore quelque sorte un petit peu éveillé pendant le sommeil, qui continue à gérer des informations inquiétantes. Et du coup, on n'a pas une perte totale de conscience, même si on dort. Et ça peut être perçu comme de l'insomnie, alors qu'il y a les heures suffisantes pour être en forme, enfin au sens de sans risque vital dans la journée. Voyez, donc ça aide quand même à se rassurer sur le fait que personne ne dort 2 heures par nuit pendant 2 ans.
Parce que sinon, on ne tiendrait pas tout
on
simplement.
On ne tiendrait pas, ben non.
Augustine, ce qu'on peut vous dire, c'est peut-être justement, vous nous dites que vous êtes toujours suivi par votre oncologue. Allez voir votre oncologue et demandez-lui s'il est en relation avec un psychologue, un thérapeute qui pourra vous aider justement à associer, à expliquer ce manque de sommeil avec, bien sûr, les étapes par lesquelles, les épreuves par lesquelles vous êtes passé pour vous aider justement à remettre bien les choses en place dans votre tête pour mieux repartir et surtout mieux redormir et vous sentir mieux comme cela. Augustine, vous êtes avec nous ?
Excusez-moi, j'étais un peu perdue là. À chaque fois que je pense à ça, j'ai tendance à pleurer.
C'est difficile. C'est pour ça qu'il faut parler avec quelqu'un qui soit préparé à vous entendre, préparé à vous aiguiller. Et ça va vraiment vous aider à aller mieux parce que vous irez mieux la journée, puis vous irez mieux la nuit, forcément.
Et je ne veux pas qu'on me prescrive encore des médicaments.
Non, justement, c'est pour ça qu'on parle de thérapie. Thérapie, ça veut dire parler, écouter, partager. Et quelqu'un pourra vous aider comme cela.
Et puis, les gens autour de moi ne comprennent pas parce que je suis très irritable la journée. Et ils ont l'impression que je suis nerveuse, je m'énerve pour un oui ou pour un non.
Écoutez, Augustine, restez avec nous en ligne parce qu'on est toujours au Cameroun. On va prendre tout de suite en ligne le docteur Benjamin Tchaleux qui est à l'hôpital général de Douala, qui est neurologue sur place. Je prends en ligne le docteur Tchaleux, on va peut-être vous mettre en relation tous les deux. Alors, docteur Tchaleux, bonjour.
Bonjour.
On a en ligne une de vos compatriotes, Augustine, qui est à Yaoundé, qui a de gros problèmes de sommeil, qui a eu un cancer du sein. Et justement, cette angoisse de la maladie altère beaucoup la qualité de son sommeil et même sa qualité de vie. On la sent très angoissée, on est un petit peu démuni pour lui répondre. Docteur Benjamin Tchaleux, est-ce que justement vous voyez comme ça des patients, des personnes qui viennent de sortir d'une maladie et qui présentent des retentissements justement sur la qualité de leur sommeil?
Oui, évidemment, on en trouve de plus en plus, surtout avec les grosses chirurgies et des patients qui ont été amputés des seins parfois ou amputés d'un membre et qui ont mal suivi, vécu la situation, mais c'est parce que la préparation en amont ne se fait pas souvent parce qu'il n'y a pas dans les hôpitaux un service de psychologie qui prennent d'abord le malade pour le préparer avant la chirurgie. Et après, les malades vivent mal leur intervention et parfois c'est l'effet secondaire des médicaments qu'on donne pour le traitement cancéreux qui lui-même va être responsable des troubles de sommeil. Bon, maintenant, devant ces patients, effectivement, il faut nécessairement une thérapie analytique avec un accompagnement de psychothérapie et pour pouvoir l'amener à comprendre, mais et surtout savoir que ces malades n'auront plus besoin de médicaments pour dormir parce que le plus souvent, il y a une accoutumance à la plupart des médicaments qu'ils ont pris.
Augustine, vous êtes toujours en ligne avec nous ?
Oui, je suis toujours là.
Vous entendez bien le docteur Tchaleux qui comprend tout à fait ce qui vous arrive. Ce sont des choses qu'il voit en consultation. On va pas dire qu'il est habitué parce que bien sûr, il n'y a pas d'habitude dans la matière. Mais ce qu'on veut vous dire, c'est que si votre entourage ne vous comprend pas forcément, il y a des médecins, il y a des soignants qui peuvent vous comprendre. Et c'est pour cela qu'il faut faire cette démarche d'aller en parler avec quelqu'un parce qu'on pourra vous aider et dans quelques mois, avec l'aide de quelqu'un de compétent, ça pourra aller mieux. C'est pour ça qu'il faut insister sur ce point et ne pas rester comme ça avec les suites de cette maladie. Vous avez déjà gagné une première partie en gagnant contre le cancer. Maintenant, il faut vous remettre psychologiquement.
Merci. Une dernière question, s'il vous plaît.
Oui.
Est-ce que le docteur, vous pouvez me mettre en contact avec
on fera ça après l'émission. On va s'occuper de ça après l'émission et on vous souhaite une bonne journée, Augustine. On va s'occuper de ça. Très bonne journée à Yaoundé. Docteur Tchaleux, on vous retrouve. On a vu ces suites post-maladie, on va dire, pour expliquer certains troubles du sommeil. Vous, en consultation, qu'est-ce que vous voyez d'autre comme cause importante, justement, d'insomnie ou d'autres pathologies du sommeil?
À l'heure actuelle, ce qu'on voit le plus en consultation comme cause des insomnies, et c'est beaucoup plus dans les classes sociales, les conducteurs de moto, on appelle ici les mototaximens, les benspinners. Ils consomment énormément du tramadol pour avoir de l'endurance. Et finalement, s'installent des troubles de sommeil assez importants chez ces groupes de personnes-là. Et au niveau des élèves et étudiants, il y a une grande consommation accrue des amphétamines à la veille des examens parce qu'ils ont l'impression que ça maintient l'éveil et que ça maintient leur niveau d'intelligence, mais ce qui est tout à fait faux et aberrant. Donc c'est juste un leurre.
Et docteur Tchalou, est-ce que les personnes viennent directement vous voir parce qu'elles dorment mal ou en fait c'est pour d'autres raisons et derrière, ensuite, vous découvrez qu'il y a un problème de sommeil?
Eh bien, évidemment, les patients ne viennent pas parce qu'ils dorment mal, ils viennent le plus souvent parce qu'ils sont très irritables, ils sont devenus très irritables, ils sont très fatigués, une asthénie inexpliquée. C'est pour ça qu'ils viennent voir ou des céphalées. Donc, des céphalées pour lesquelles ils ont pris tous les médicaments, antalgiques, anti-inflammatoires, ça n'a pas marché. Et c'est pour ça qu'ils viennent consulter. Et c'est lors de l'interrogatoire qu'on se rend compte que c'était des insomniaques chroniques et qu'il y a des abus médicamenteux, bon, à la limite de la drogue, quoi.
Et qu'est-ce que vous proposez comme prise en charge?
Généralement, comme c'est des maladies chroniques, au Dextrom, c'est des insomniaques chroniques. Évidemment, on le prescrit juste une hygiène du sommeil et de la vie, donc notamment ne pas aller au lit si on n'a pas de sommeil, avoir une heure pour se lever et non une heure pour se coucher, ne pas boire des quantités d'eau ou d'alcool après 17 heures, éviter les exercices physiques après 18 heures, et ne pas supprimer les siestes si d'habitude ils avaient besoin de dormir à midi. Et donc cet accompagnement, le plus souvent on arrive avec et puis effectivement en leur demandant progressivement d'arrêter ces médicaments auxquels ils sont abus. Et donc c'est comme ça qu'on accompagne ces gens et parfois on leur conseille les psychologues pour les prendre en charge s'ils avaient d'autres troubles.
Avec notamment cette association aux addictions dont vous nous avez fait part. Merci beaucoup, docteur Benjamin Tchalou. Je rappelle que vous êtes neurologue à l'hôpital général de Douala au Cameroun. On aborde la dernière partie de cet échange. Est-ce que vous avez l'impression, professeur Isabelle Arnulf, que l'on peut parler véritablement d'une détérioration de la qualité du sommeil et d'un phénomène planétaire?
Oui, là, on est en train de parler d'autre chose que de l'insomnie, hein, de la pénurie de sommeil chez les, en particulier les populations jeunes ou les travailleurs. Et oui, ça devient planétaire. Alors, on a l'invasion des écrans quand même, qui sont arrivés depuis, surtout dans les villes, qui sont arrivés dans les chambres et avec une addiction aux écrans très tard le soir, que ça soit pour regarder des séries, être sur les réseaux sociaux, parler avec les autres, et qui a empiété sur le temps de sommeil.
Est-ce qu'on peut dire que c'est d'une certaine manière, parce que ce sommeil, pour certains, est devenu accessoire, comme si on n'avait pas vraiment conscience que notre santé est en jeu?
Oui, c'est un petit peu le temps sur lequel on va mordre, hein, comme si c'était pas très utile. On a toujours l'impression, et quand on entend les insomniaques qui sont vraiment nostalgiques de ce royaume perdu, on se dit quand même les autres, ils devraient faire attention à leur sommeil, parce qu'il y a un moment où on n'y arrive plus. C'est-à-dire qu'il va y avoir des endormissements dans la journée, y compris au volant, à l'école. Au volant, c'est extrêmement dangereux. Et puis au bout d'un moment, quand on malmène le sommeil, il n'arrive plus à arriver naturellement. Et vous avez des jeunes comme ça qui ont beau éteindre leur téléphone ou leur écran, ils n'arrivent plus à trouver le sommeil. Ils ont fini par décaler complètement leur horloge et il faut réapprendre finalement à des choses extrêmement simples. Éteindre tout à 23h dernier carat ou 22h, vous voyez, suivant l'heure à laquelle on doit se lever le matin. Essayer d'avoir des activités calmes et simples avant de dormir, comme par exemple lire un bon livre ou converser avec son conjoint. Éviter les bains très chauds le soir aussi, hein, ça on n'en a pas parlé. détails, mais on a un petit peu parlé de la température tout à l'heure. Hein. On s'endort plus facilement sur une température du corps qui est en train de chuter et on dort mieux dans une pièce fraîche, à 18 degrés à peu près. Hein. Donc on va éviter une boisson très chaude le soir, la tisane d'accord, mais très tiède.
Et oui, ça va contre un certain nombre d'idées reçues. Tout à l'heure, je voyais acquiescer Jean-Marc Loison sur ce temps accessoire. Vous aussi, c'est quelque chose que vous constatez, les gens dorment, mais finalement, s'ils pouvaient s'en passer, pour certaines populations bien sûr, ce serait pas si mal.
Oui,
tant dormi, tant perdu pour certains.
Exactement. Et je dirais que avec l'accélération de notre monde moderne, on considère de plus en plus que le sommeil fait partie plutôt du confort. C'est pour cette raison qu'une de nos missions également est de sensibiliser les pouvoirs publics à cette pathologie pour qu'il y ait une réelle prise en charge.
Avec une actualité, puisque les Français avaient jusqu'au 3 mars, c'est un sujet peut-être un peu franco-français, en tout cas qui concerne l'Europe, sur le maintien ou non du changement d'heure saisonnier. La majorité a penché en faveur du maintien de l'heure d'été. Est-ce que vous avez un avis sur la question? Vous d'abord, la scientifique, professeure Isabelle Arnulf.
Oui, alors la raison de l'arrêt du changement d'heure, elle était liée au fait d'une part que c'était pas si économique pour le climat, et d'autre part que dans la semaine qui suivait les changements d'heure, on avait une recrudescence d'infarctus. Donc ce qui suggère quand même qu'une partie de la population, alors il a fallu des milliers de personnes pour montrer ça, il y en a très peu qui sont sensibles, mais ça montre que quand on avance tout d'un coup d'une heure l'heure de lever chez des personnes qui se levaient avant à 7h et que ça fait lever à 6h, sur des milliers de personnes, ben, il y en a quelques-unes qui vont avoir une vraie souffrance physique. Donc ça montre bien le prix de l'heure perdue. Je voudrais revenir à la pénurie de sommeil quand même. Ce qui a été montré par une équipe coordonnée par l'Europe et par la faculté d'Orsay, c'est que les adolescents, quand ils dorment moins, perdent de la matière grise, en particulier dans le lobe frontal, qui est le lobe le plus important pour tout ce qui est les pensées évoluées. Donc on est en train non seulement de créer des générations qui vont être plus obèses, plus irritables, moins attentifs à l'école, mais aussi d'atteindre le cerveau. C'est pour ça que une des...
Moins dormir rend bête. Moi je schématise, mais je vais dans la clarté, hein, on va dire
Mais faisons des contre-propositions, certes. Baissons les écrans le soir, que les parents soient un petit peu plus fermes sur l'heure de coucher. Mais dans les contre-propositions, il y a par exemple l'idée actuelle qui va commencer en Île-de-France d'aller plus tard à l'école. Et en particulier chez l'adolescent. Parce que finalement, ces jeunes se lèvent parfois à 6 heures pour prendre des transports et pour arriver épuisés à 8 heures du matin, ils s'endorment en classe. Donc plusieurs pays ont adopté cela. Au début, on a craint que du coup les adolescents se couchent de plus en plus tard parce que c'est déjà leur tendance. Et finalement, ça a marché. Les performances ont remonté en Australie, en Angleterre. Donc Paris va essayer de le faire. Si ça marche, ça va être étendu.
S'adapter.
Et s'adapter. Ensuite, il y a la sieste compensatrice qui est déconseillée dans l'insomnie, mais qui est conseillée chez les gens qui manquent de sommeil. Donc il faut que ça soit visualisé comme quelque chose de positif. Une courte sieste de 30 minutes à l'école, favoriser voilà, la sieste à l'école.
Jean-Marc Loison, il nous reste peu de temps. Je vous laisse le mot de la fin.
Oui, bien, pour l'actualité, j'aimerais dire que le mois de mars, c'est le mois du sommeil et que nous soutenons des opérations telles que la campagne nationale d'information à chacun son sommeil, qui est organisée par les laboratoires Pilège. Et donc, tout au long du mois de mars, vous avez des conférences, des chats, des tutos. Je donne rendez-vous à vos auditeurs à aller sur le site internet.
Ceux qui sont en France, du moins, qui sont pas forcément les plus nombreux, on vous remercie.
Oui, mais c'est une campagne digitale.
Donc on peut y aller sur les réseaux sociaux, on peut tous y aller. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux d'avoir répondu à notre invitation, professeur Isabelle Arnulf. Je rappelle le titre de votre livre, Une fenêtre sur les rêves, neuropathologie et pathologie du sommeil aux éditions Odile Jacob. Merci beaucoup à vous, Jean-Marc Loison, président de l'association France Insomnie.
Priorité santé sur RFI.
C'était il y a un mois précisément, le 15 février, une réunion d'urgence s'est tenue pour tirer la sonnette d'alarme sur un risque imminent de rupture généralisée des traitements antirétroviraux au Gabon. Pour en parler avec nous, on retrouve Françoise Ndaye-Chimier. Bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes la directrice de l'ONU SIDA Gabon. Alors, une réunion pour alerter il y a un mois. Où en sont aujourd'hui les stocks d'ARV, ces médicaments combinés pour lutter contre le virus du SIDA, ces stocks au Gabon?
Oui, Caroline, comme vous l'avez entendu, la sonnette d'alarme a été lancée par le gouvernement Et aujourd'hui, je dirais que on est dans l'espoir et dans de qu'on a de bonnes nouvelles, parce que des solutions en urgence et à long terme sont en train d'être trouvées. Il y a eu un partenariat entre tout le monde pour essayer de trouver les solutions afin d'éviter le pire. Comme vous l'avez entendu sur les médias, on avait parlé d'un grand risque de rupture de stock des médicaments antirétroviraux au Gabon. Et à ce moment-là, le gouvernement a réuni tous les partenaires pour demander qu'est-ce qu'on peut faire très rapidement pour avoir une solution d'urgence, mais également proposer des solutions pour le long terme.
Parce qu'aujourd'hui au Gabon, contrairement à d'autres États africains, c'est l'État, c'est le gouvernement qui prend en charge pour l'essentiel le financement de ces traitements.
Oui, justement, le gouvernement gabonais prend en charge 100% des patients sous ARV. Et là, pour vous donner quelques chiffres, nous estimons à 56 000 personnes qui sont infectées par le VIH au Gabon. Et parmi ceux-là, 34 000 personnes sont aujourd'hui prises en charge par le gouvernement gabonais. Et tout est pris en charge à 100% par le gouvernement gabonais.
Il faut rappeler, c'est important, Françoise Daïchimier, hein, les risques encourus lorsque l'on interrompt son traitement quand on est porteur du VIH et qu'on n'a plus justement à disposition, on appelle ça une rupture en fait dans le traitement, de ces ARV.
Pardon ?
Quand on interrompt le traitement, quels sont les risques encourus pour les personnes qui sont porteuses du virus ?
Quand on interrompt le traitement, le risque par rapport au virus, c'est une recrudescence du virus et probablement à long terme aussi une sorte de résistance au traitement qu'on prenait et donc un changement éventuel de traitement.
Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est dans ces questions de livraison? Quel type d'accord a été trouvé justement entre le gouvernement, les fournisseurs de médicaments et peut-être des financeurs internationaux?
Ce qui est vrai, c'est que, comme vous le savez, le gouvernement, le Gabon est un pays avec une population réduite de moins de 2 millions. Et du coup, le nombre de personnes vivant avec le VIH aussi, qui est déjà sous traitement, est petit. Et quand on fait les commandes auprès des fournisseurs, des fois, leurs conditions sont un peu plus dures en termes de livraison et autres. Et c'est ce qui peut amener de temps en temps certaines ruptures de stock.
Est-ce que ça veut dire que vous allez centraliser les commandes avec d'autres pays?
Pardon ?
Est-ce que ça veut dire que vous allez centraliser les commandes avec d'autres pays pour avoir plus de quantité et donc réduire les prix ?
Pour le moment, ce n'est pas encore d'actualité parce que le fait que le Gabon soit à lui seul qui paye 100% de les traitements, alors qu'autour de nous, les traitements sont payés par le Fonds mondial ou alors le projet PEPFAR. Ça fait que ça soit difficile de faire une commande groupée, mais je pense qu'on est en train d'analyser comment on pourrait faciliter cette collaboration parce que ça sera pour le long terme quelque chose qui sera bénéfique en même temps pour le Gabon et pour les malades.
Et pour ne plus se retrouver dans ce genre de situation qui pourrait à terme mettre en danger les malades. Merci beaucoup, hein, Françoise Daïchimier. Je rappelle que vous êtes directrice de l'ONU SIDA Gabon. Et merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique et réalise votre émission. C'est Toussaint Maquet, Louise Cadélec, Fabien Munieret aujourd'hui, Steven Esli. Lundi dans Priorité Santé, nous allons parler des migraines, diagnostic, prévention, prise en charge. Si vous avez des questions, bien sûr, laissez-nous vos messages sur la page Facebook de l'émission ou bien sûr le numéro de téléphone de Priorité Santé 33 1 84 22 75 75. On se retrouve lundi.
Priorité Santé avec Suno Assurance. Comme les brillants entrepreneurs, profitez d'une assurance épargne et réalisez vos projets en toute assurance. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Sous nos assurances, notre métier